Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, les micros sont un petit peu défaillants et c'est un peu gênant pour l'échange. Juste avant que nous lancions dans un nouveau débat, je vous rappelle la date du prochain événement. Donc, comme le disait Marie France, c'est une conférence qui sera animée par mon collègue Sylvain Teul sur la fin de vie. Soins et fin de vie, aurons-nous la lucidité pour décider? Donc une conférence qui aura lieu dans la grande salle juste à côté, donc au lycée Jean Zay, le mardi 22 novembre à 19h. Voilà, donc si jamais vous voulez noter ça dans votre agenda, n'hésitez pas. Voilà. Y a-t-il des personnes qui n'auraient jamais vécu un café philo? Oui. Alors je me permets de... Bonsoir à vous. Donc je me présente très rapidement, donc je suis Nicolas Béret, je suis professeur de philosophie au lycée Jean Zay, ici même. Et donc j'anime en alternance avec Laurence, ici là-bas, une fois sur deux, le café philo, le débat de ce café philosophique. L'organisation est la suivante, il n'y a pas de thème qui soit prédéfini. Vous allez proposer des idées, des thèmes, des réflexions, des questions. On va rapidement les noter et rapidement voter pour la question qui nous intéresse davantage. Et puis ensuite, on lance le débat qui n'est pas un cours de philosophie, qui est animé par un professeur de philosophie, mais qui n'est pas un cours de philosophie, c'est un échange d'arguments autour de cette question. Voilà. Et on termine vers à peu près 20h30, 20h40. Voilà. Pas beaucoup plus long. Ben justement, donc est-ce que vous auriez des questions, des thématiques que vous aimeriez proposer à la discussion ce soir? Il y a quelqu'un, Marie-France, va les noter. Je suis un peu gêné par cette table. Excusez-moi, je vais le faire. Je fais un peu de maintenance. Pardon, j'aurais dû faire ça avant. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions donc, que vous aimeriez proposer à l'Assemblée? Oui, madame.
Oui. En quoi être solidaire fait du bien?
En quoi être solidaire fait-il du bien? Voilà, donc, effectivement, la question de la solidarité et de ses effets. Monsieur?
Sobriété et désir peuvent-ils aller de pair?
Sobriété et désir peuvent-ils aller de pair? La question parle d'elle-même. Donc une première interrogation sur la solidarité, savoir si la solidarité fait du bien. Une deuxième question sur la question de la sobriété et du désir. Est-ce que vous avez d'autres propositions, d'autres suggestions? C'est pas forcément une question, ça peut être un thème, hein, un mot sur lequel vous voudriez que l'on se penche ce soir. Non, je vous laisse le temps de la réflexion. Marie-France, vous pouvez peut-être rappeler les questions qui avaient été...
Je suis justement en train de...
D'accord.
de les
problème de Donc, sobriété et désir, la question de la solidarité. Sinon, on va passer... Oui.
La société peut-elle protéger des peurs?
La société peut-elle protéger des peurs? Je suis désolé, il y a une interférence là, avec l'enceinte.
Déplacer, je ne sais pas, je vais essayer.
Pendant une heure et demie, ça peut être pénible. En fait. Je pense pas que ça change grand chose. Ça n'a rien changé.
Ça y est, je suis arrivée.
Alors, la question de la solidarité, la question de la sobriété, savoir donc si la société peut nous protéger des peurs. Oui, madame. Ben comment peut-on faire face à l'intolérance? Comment peut-on faire face à l'intolérance? Ou le peut-on, oui.
Tant de questions. Moi, j'avais envie qu'on réfléchisse sur les conditions de validité pour émettre une opinion, sur ce qu'on pourrait appeler l'honnêteté intellectuelle. C'est un sujet d'actualité, alors je ne sais pas trop si c'est...
À quelles conditions une opinion est-elle recevable ?
Oui, voilà. Oui.
Peut-être ?
Ok.
À quelles conditions une opinion est-elle recevable ? Marie-France, vous pouvez peut-être nous rappeler les différentes thématiques proposées ?
Oui. Alors, merci. Donc, premier sujet, en quoi être solidaire fait-il du bien ? Deuxième sujet, sobriété et désir peuvent-ils aller de pair ? Troisième sujet, la société peut-elle protéger des peurs ? Quatrième sujet, comment peut-on faire face à l'intolérance ? Et cinquième sujet, à quelles conditions une opinion est-elle recevable ?
Très bien, merci. Est-ce que vous auriez d'autres propositions ? Alors qu'on passe à un vote... Non, c'est bon ? Oui ? Donc, on peut voter pour la... S'il y avait un deuxième tour, il faudra voter pour une seule proposition. Là, vous pouvez voter pour autant de propositions que vous souhaitez. C'est une bonne façon de faire vivre la démocratie.
Alors, vote pour le premier sujet. En quoi être solidaire fait-il du bien ?
En quoi être solidaire fait-il du bien ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Sobriété et désir peuvent-ils aller de pair ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Troisième sujet, la société peut-elle protéger des peurs ?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quatrième sujet, comment peut-on faire face à l'intolérance ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Et enfin, à quelles conditions une opinion est-elle recevable ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors il me semble il y avait 26 mains levées pour la question sur la sobriété, c'est bien
25,
ça
hein? 25. Oui, c'est vraiment d'accord. La sobriété qui arrive en fait.
Donc, eh bien... La sobriété et le désir sont-ils compatibles ? Alors, monsieur, c'est bon, aussi. Reprenons les bonnes vieilles traditions.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous anime dans cette question et pourquoi est-ce que vous nous proposez, ou plutôt qu'est-ce que vous avez en tête ? Quelles sont finalement toutes les
déjà,
idées
Déjà, bon, le terme de sobriété, c'est quelque chose qui vient, qui revient sur, qui est revenu dans l'actualité. On parle de sobriété plutôt que de restriction, c'est peut-être un terme plus positif. Il se trouve qu'il y a eu un numéro de Philosophie Magazine sur le thème de la sobriété.
C'est l'avant-dernier numéro. Oui.
Voilà, l'avant-dernier numéro. Ouais. Et
la question du désir a aussi été interrogée
dans ce sujet, dans ce numéro.
Mais j'ai, on va dire que j'ai pas tout compris.
Ou Donc
j'aimerais bien reposer, qu'on puisse reposer autour de ça,
parce que il semble. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça peut paraître contradictoire, ce bruit, c'est consommer moins, et le dire.
Mais le tir, c'est aussi un moteur de la vie, donc comment les œufs, puisque les œufs peuvent coexister, est-ce qu'on peut désirer la sobriété? Est-ce que ça suffit de désirer la sobriété pour avancer?
C'est vrai que j'aime bien qu'on.
D'accord, bien, merci. On est vraiment désolé pour les micros qui sont défaillants. Alors peut-être effectivement pour la salle, je me demande si c'est pas préférable de parler sans micro, parce que on va se lever pour parler un peu plus fort, parce que c'est vrai que
peut-être s'il y a des gens qui ont des voix fortes et qui portent, et si quelqu'un a une voix qui ne porte pas, qu'il vienne utiliser le micro avec fil.
Ouais, c'est vrai que
effectivement,
on est vraiment désolé, mais ça hache, voilà, et ça perturbe quand même la communication. Donc la sobriété, le désir, effectivement, à partir des enjeux contemporains, enfin, en tout cas, c'est la fin de l'abondance, nous a-t-on dit, à la rentrée. Et cette question qui travaille aujourd'hui notre société, et effectivement, jusqu'à faire la une et le dossier d'un dernier numéro de Philosophie Magazine. Qu'est-ce que vous entendriez, quel sens vous donneriez à la sobriété ? Effectivement, c'est un mot qui aujourd'hui devient un mot valise, mais qui, me semble-t-il, est assez ambivalent. Oui, madame.
Pour moi, la sobriété, c'est pouvoir avoir le minimum vital pour finalement se sentir bien et heureux, de pouvoir manger, dormir, avoir un toit, et finalement se sentir bien en communication avec les autres qui nous entourent.
D'accord, donc par sobriété, on irait entendre une situation, une condition plutôt dans laquelle les besoins d'une existence humaine décente sont satisfaits. Ouais. Madame, ouais.
Oui, moi, il me semble que le mot sobriété s'entend dans le contexte actuel de l'actualité plutôt comme restriction par rapport à une société de consommation démesurée. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je mettrai quelques réserves si on prend la pyramide de Maslow. Savoir jusqu'où on a.
Ah, peut-être que la pyramide de Maslow, il faut peut-être préciser pour nous toutes et nous tous.
Disons que plusieurs degrés de besoin et de satisfaction de besoin qui va effectivement du plus simple, du plus frugal, du plus biologique, je dirais, c'est-à-dire manger, dormir, se reproduire éventuellement. Et puis ensuite, ce qui s'élève, justement, plus les besoins sont satisfaits par la base et ainsi de suite, qui s'élève jusqu'à des besoins après d'accomplissement, de culture.
De reconnaissance.
Voilà, de reconnaissance. Et il me semble que si on entend la sobriété juste par. La reconnaissance des besoins primitifs, je dirais, et nécessaires à la survie, eh bien, on perd notre humanité.
Ok. Qui levait la main ? Oui, madame, oui.
Oui, la sobriété, en disant c'est juste ce dont on a besoin, c'est aussi le besoin que j'ai, mais pas le même, celui de mon voisin. Donc, où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on commence? Il y en a qui parlent de surpopulation. Est-ce qu'on va dire qu'à partir de 90 ans, tous les gens qui ont besoin de soins intensifs, on arrête? C'est brillant.
Alors, votre remarque. Regarde. Votre remarque, elle nous invite quand même à aller finalement en bonne discussion philosophique d'un concept à l'autre, c'est-à-dire l'analyse de la sobriété vers celle de besoin, et peut-être à distinguer le besoin du désir, parce que finalement c'est ce que vous nous proposez. Il me semble, je vous laisse la parole tout de suite, que par besoin, on peut s'entendre Après, qu'est-ce qu'on met dans le besoin ? Ça, c'est... Là, il y a débat. Hein. La définition, j'allais dire, commune et assez acceptable du besoin, ça serait de dire que le besoin, c'est une nécessité vitale ou pas forcément vitale, ou vécue comme telle, ou reconnue comme étant vitale. Ça comprend à la fois les besoins physiologiques auxquels vous faites référence, donc ceux d'une vie décente, à la fois les besoins spécifiques à la condition humaine, qui sont ceux, par exemple, des rapports sociaux, d'accord, de l'amitié, de la reconnaissance, ce que vous évoquez avec la pyramide de Maslow, mais aussi les besoins que chacun ou chacune, dans le type de société dans lequel il évolue, va considérer comme tel, va reconnaître comme tel. L'argent n'est pas un besoin au sens propre, c'est pas une nécessité. On peut vivre sans argent dans des sociétés non marchandes, on peut vivre sans argent dans une société marchande, par le troc, par l'entraide, par le don, par le vol, par... Et n'empêche que pour l'immense majorité d'entre nous, dans une société marchande dans laquelle nous vivons, l'argent devient un besoin, au sens où il nous permet de satisfaire un certain nombre de nos besoins. Le téléphone portable en soi n'est pas un besoin, c'est un gadget superflu. Dans l'ordre social tel qu'il s'est organisé, dans le marché du travail, dans les liens sociaux, professionnels ou privés, le recours au téléphone portable devient une nécessité. Effectivement, et là, effectivement, ce que vous pointez de manière très juste, c'est cette marge de manœuvre, c'est cette variabilité du besoin. Est-ce que, à combien de mètres carrés, par exemple, on estime l'espace minimal dans lequel un homme ou une femme peut vivre ou doit vivre ? Est-ce qu'on a besoin d'un sauna, d'une piscine ? Est-ce qu'on a besoin d'une voiture ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? Et donc, effectivement, la question que vous posiez, à savoir si la sobriété est contradictoire avec le désir, c'est que précisément le désir, ça n'est pas le besoin. Le besoin, on le contente. Le besoin, on le satisfait par l'objet de notre besoin. J'ai faim, je mange. Voilà. Le désir, c'est autre chose. Je vous laisse la parole, madame.
Oui, moi, dans votre besoin et désir, pour moi, il y avait quand même le mot désir. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des désirs qui soient sobres ? Pour moi, c'est possible.
C'est toute la question. Voilà, vous avez problématisé. Est-ce qu'on peut avoir des désirs sobres, un désir ou des désirs de sobriété ?
Pas forcément d'arrêter à 90
ans. Monsieur.
Je rebondis sur ce que dit madame. En fait, on peut avoir des besoins modérés lorsque vous avez étudié, et il peut être sobre, et on peut avoir beaucoup de désirs, comme par exemple le désir de s'accomplir soi-même, ou s'accomplir en communiquant avec les autres, le désir d'entreprendre, le désir de... Il y a plein de désirs qui ne sont pas liés à des objets matériels, qui sont des moteurs pour la vie, pour la vie, pour le sens, pour moi, qui passe.
Et que vous considéreriez comme des manifestations de la sobriété ? J'entends par là, si je veux préciser un peu ma question, le désir ou le besoin ne ressemble pas forcément à un objet matériel. Est-ce que, par exemple, un désir d'ascension sociale ? Le désir de Rastignac chez Balzac, est-ce que c'est un désir de sobriété ?
L'ascension sociale, ça peut passer par des travers ou des dommages collatéraux qui sont liés à qui vont entamer la sobriété. Tandis que il y a d'autres désirs qui sont plus, je ne sais pas si on peut les hiérarchiser, j'allais dire nobles, mais j'en ai ce mot-là. Pas
des liens
d'entreprendre,
j'entreprends, c'est forcément, ça peut être aussi le service
de la collectivité, ça peut être un petit peu de soi-même aussi, évidemment.
Bien sûr,
oui. Mmh. Ça n'existe pas.
Très bien. Madame, monsieur et monsieur, dans l'ordre.
Ouais. Oui, je voulais rebondir sur le mot désir. On est quand même dans une société dans laquelle il y a des situations qui créent des désirs, qui fabriquent des désirs, qui ne sont pas des besoins. Et quand on nous demande de faire de la sobriété, on est sollicité en permanence pour alimenter des désirs qui, effectivement, les choses portables, etc., ne sont pas forcément des besoins, mais la société fonctionne là-dessus pour l'instant. est-ce que l'individu tout seul peut se résoudre à la sobriété?
C'est même plus que ça. Enfin, ce que vous dites me semble très, très pertinent. Je dirais même un cran au-dessus, c'est que, ou un peu plus loin, c'est que la société de surconsommation dans laquelle nous vivons, notamment avec les incitations à consommer que sont la publicité, en gros la propagande commerciale, transforme des désirs en besoins. C'est-à-dire nous faire comprendre que ce qui ne serait que l'objet d'un désir devrait être perçu et vécu comme une nécessité vitale, comme étant un besoin. Le désir, si je me permets de jouer un peu au professeur de philosophie 10 secondes, le désir, il est contingent, c'est-à-dire qu'il peut être ou ne pas être. Je peux désirer ceci ou ne pas le désirer, je peux le satisfaire ou ne pas le satisfaire, et j'allais dire, ma vie, pour le dire un peu grossièrement, un peu rapidement, n'est pas mise en danger. Et peut-être, ça peut générer des sentiments de frustration, de déception, d'impatience, de ressentiment, il n'y a pas de mise en danger. Le besoin, à l'histoire du désir, il est nécessaire. Il ne peut pas ne pas être. Il s'impose à moi malgré moi. Ce qui est le cas pour les besoins physiologiques, ce qui est le cas peut-être pour le téléphone portable d'une société comme la nôtre, ce qui est le cas pour l'accès à une ressource économique dans une société comme la nôtre, une société marchande. Et effectivement, les sociétés dans lesquelles nous vivons, il y a une sorte d'injonction contradictoire quand même de la part des institutions politiques aujourd'hui, sont les sociétés dans lesquelles nous sommes invités à vivre nos désirs contingents, superficiels, non nécessaires, comme étant des besoins, c'est-à-dire comme étant, comme devant être absolument satisfaits pour que notre vie ne soit pas mise en danger, ne soit pas déséquilibrée, ne soit pas précarisée, pour que notre vie mérite d'être vécue. La voiture, la dernière veste que je vais acheter pendant mon Black Friday, qui va bientôt arriver, bah c'est bien ça, c'est surtout ne pas rater l'occasion. Monsieur, pardon.
Moi, c'est juste une question de vocabulaire, pour être sûr que je comprends bien. Ouais. Moi, j'utilise plus le mot modération que sobriété, et je voulais savoir si c'est la même chose. En gros, parce que pour l'alcool, par exemple, quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un qui a touché à rien, et c'est pas la même chose.
Ah, très juste, par exemple, très pertinent. Voilà, c'est tout. Si je suis sobre, je ne suis pas alcoolisé, je peux avoir bu avec modération. Et alors, dans l'ordre, c'est monsieur, madame,
Moi, ce que je voulais dire, c'est que le désir, c'est d'abord un moteur. C'est un moteur pour le désir de vivre. C'est ce qui nous pousse en avant, c'est ce qui nous fait... Alors, dans ce sens-là, sobriété, ça n'a pas tellement de sens.
C'est un aiguillon, le désir.
Oui, parce que quelque chose, le désir de vivre, ça nous mène, ça nous maintient en vie. C'est essentiel. Et
c'est l'essence de l'homme, disait Spinoza.
Voilà. Ouais. Et donc, la sobriété, dans ce cadre-là, ça n'a pas tellement de sens. Après, il y a des désirs qui peuvent être secondaires, on va dire, qui peuvent peut-être se raisonner autrement. Mais principalement, le désir, c'est le désir de vivre.
Et donc, dans ces cas-là...
Sobriété, non.
La sobriété est contradictoire.
Voilà.
D'accord.
Oui.
Oui, en fait, moi, je voulais revenir sur ce que provoque les publicités. Et je pensais à Bernard Stiegler, qui s'inquiétait des nouvelles technologies. Je n'ai pas une voix de sa force, je suis désolée.
Oui, à propos de ce que provoquent les publicités, je pensais à Bernard Stiegler qui s'inquiétait des nouvelles technologies, pas en elles-mêmes, mais du fait qu'elles étaient entièrement entre les mains du marketing. Et il disait qu'en fait, ce que le marketing cherchait à faire, c'était à nous maintenir au stade de la pulsion, et en particulier de la pulsion d'achat, en empêchant les pulsions de se cristalliser en véritable désir, désir pris au sens le plus large, qui peut être désir pour son conjoint, désir d'investissement artistique, sportif, associatif, politique, enfin, tous les désirs qu'on peut imaginer, mais qu'on cherchait à nous maintenir au stade de la pulsion, et plus précisément de la pulsion d'achat. Et j'avais appris dans son école d'Épinal et de Fleuriel que les sociétés, enfin les grandes firmes publicitaires disposaient d'IRM. On n'en a pas assez en France pour diagnostiquer et suivre les cancers, mais les publicitaires en ont. Et ça leur permet de sélectionner les publicités qui vont directement exciter la zone des pulsions en court-circuitant toutes les zones cognitives. Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est le neuromarketing. Ouais. Merci. Madame.
Oui, moi je voulais dire qu'il y a des parties français que la sobriété s'apparentait quelque chose de financier. Or, pour moi, la sobriété, c'est plus la simplicité et ça part de la façon de penser avant tout.
Alors là, vous voyez, on a trois concepts quand même qui sont voisins, mais qu'il va falloir démêler. La sobriété, la modération et la simplicité. Je vais bien vous laisser la parole, madame. Ouais, et après, on va revenir. J'ai besoin physiologique, oui.
Il y a cette idée de pyramide. Et en fait, on voit que pour des questions de sens, en fait, il y a des gens qui peuvent ne pas assurer certains besoins et compris des autres. Par exemple, quelqu'un qui va faire le grève de la faim parce qu'il a une conviction particulière, il est dans ses besoins vitaux parce qu'il a des sens pour lui. Et en fait, on a beaucoup, finalement, j'ai l'impression que la question de sens est beaucoup plus importante. En fait,
oui, alors deux petites remarques, puis après on reviendra sur la question de la sobriété. Sur les besoins sur la pyramide de Maslow, première remarque, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on enseigne la pyramide de Maslow, qui est discuté, mais je ne suis pas psychologue, donc je serais incapable d'en parler de manière précise et surtout pertinente. Ça va un peu au-delà de mon domaine de compétences. Mais visiblement, c'est une distinction, une typologie qui aujourd'hui est en partie discutée. Mais pour terminer ma phrase, lorsqu'on propose à l'enseignement la pyramide de Maslow, on la propose plus sous la forme d'une pyramide, justement. On la propose sous la forme d'une sorte de cercle où il y a une égalité des besoins. C'est-à-dire que le besoin physiologique, il est évidemment central, mais le besoin de reconnaissance sociale, il est tout autant. Le besoin affectif, il est tout autant. Et c'est ça. Et donc, finalement, je crois qu'il y a sept étages. Ce que Maslow pensait effectivement comme une suite, d'accord, une progression vers des besoins considérés comme étant inférieurs ou moins vitaux. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire qu'en fait, il n'y a pas de besoin qui soit premier ou secondaire. Et que ce que vous disiez est tout à fait juste. Et puis, une deuxième remarque, c'est qu'en fait, sans même, là je connais un peu plus, sans même aller vers le pyramide de Maslow, lorsqu'on se penche un peu sur des philosophies antiques, notamment celle d'Épicure, et la lettre à Ménécée d'Épicure, la lettre qu'Épicure adresse à son disciple Ménécée, on a déjà finalement quelques éléments de réponse sur cette question de la simplicité, de la modération, de la sobriété. Épicure nous dit finalement, pour être heureux, il faut que les besoins vitaux, physiologiques soient satisfaits. Un homme qui a mangé à sa faim, qui a bu autant qu'il le faut, est aussi heureux que Zeus, dit-il. Je crois. Et il ajoute à cela, il faut de l'amitié. En gros, le rapport, la filia grecque, le rapport social à l'autre, de l'amitié et une harmonie avec soi-même. Et finalement, ce qu'il considère comme étant la condition nécessaire d'une vie décente, d'une vie humaine, c'est à la fois finalement la satisfaction des besoins du corps et là, ce qu'il appelle lui. On veut faire ces distinctions un peu dualistes entre les besoins du corps et les besoins de l'esprit, qui sont ceux finalement de la relation sociale, une relation sociale positive, qu'il appelle amitié dans la langue grecque, la philia, et d'une relation à soi-même, ce que vous disiez sur l'exemple de la grève de la faim, une cohérence avec soi-même, faire en sorte que mes comportements au quotidien me rendent la vie comme étant digne d'être vécue, ce qu'il appelle l'harmonie avec soi-même. Et finalement, pour un philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc, est-ce qu'on peut, transposer ce qu'un grec comme Épicure pense au 4e siècle avant Jésus-Christ en France en 2022? Mais pour un penseur comme Épicure, la sobriété, c'est ce que vous disiez, c'est une forme de simplicité, ou plutôt la sobriété se définit de manière négative. La sobriété, c'est l'inverse de l'excès. C'est l'inverse de l'excès. Parce que l'excès est toujours, je vais vous redonner la parole, Mais l'excès est toujours destructeur. Destructeur pour les autres, destructeur pour l'environnement, mais ça, Épicure ne peut pas le penser, et surtout destructeur pour soi-même. Et donc la sobriété, c'est être en capacité de refuser volontairement de céder à l'excès. Or, le désir nous pousse vers le toujours plus fort, toujours plus vite, vers l'accroissement, finalement, de notre force vitale. Et donc, je pense que voilà, c'est que, pour revenir à votre... essayer de démêler un peu ces concepts, la modération, c'est un désir qui se réfrène. Je bois avec modération, je mange avec modération. Enfin, bref, c'est un désir qui tend de se réguler. Et il me semble que la sobriété, c'est pas un désir qui se réfrène. Parce que là, vous voyez, il y a une frustration. J'aurais bien bu un verre de plus, mais non, il faut que je prenne le volant. Mais non, il faut que je vais être ivre. Enfin, bref, c'est ça. Alors que la sobriété, c'est plutôt un désir de simplicité. Un désir de refuser l'excès, un désir d'aller à l'encontre de cette... soit de cette pulsion, soit de ce désir qui me pousse au toujours plus. Parce que je prends conscience que l'excès ne m'est jamais bon. C'est pas que l'excès est mauvais, c'est pas que l'excès est mauvais en soi, c'est qu'il n'apporte pas des conséquences positives. Donc, il me semble qu'on pourrait définir la sobriété comme un désir de simplicité. Dans quel cas, ça serait pas forcément contradictoire. Moi, j'ai parlé longtemps, madame.
Non, mais alors, j'ai une question. La sobriété dont on nous parle actuellement en politique, ne serait-elle pas juste une question d'économie ? Et pas du tout de philosophie, ni d'accomplissement de soi, ni rien du tout. C'est juste des chiffres. Pour réduire, voilà.
Alors, j'ai du mal à... Je veux bien que...
C'est ça, hein.
Oui, parce que là, je suis pas porte-parole du gouvernement et j'aurais bien du mal à l'être ou à mimer cela, mais effectivement, j'ai l'impression, mais c'est une impression cette fois-ci un peu aux doigts mouillés, comme la vôtre, que le discours de sobriété qui est celui du gouvernement ou des représentants politiques à la rentrée, avec c'est la fin de l'abondance, etc., c'est lié à un contexte. C'est lié à un contexte de cherté. Produits, de rareté des énergies, de la guerre en Ukraine et de la crise climatique qui nous tombe dessus. Et c'est plus une réaction politique pour éviter de parler de restrictions, c'est la restriction m'est imposée, la sobriété, je me l'impose, elle est volontaire. C'est plus, à mon avis, un discours politique pour maquiller une petite restriction. Que effectivement une lecture patiente et répétée d'Épicure, d'Aristote, de Platon et des stoïciens qui nous inviterait à plus de sagesse et de sobriété dans nos vies. Mais il n'empêche qu'on est quand même, me semble-t-il, au-delà de cet aspect politique, un peu à la croisée des chemins, et je pense que votre question elle est vraiment très pertinente, parce que vraiment très contemporaine, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui... Il y a mille et un débats sur cette question de la sobriété. On est quand même à la croisée des chemins, c'est-à-dire vers quel type de société on a envie d'aller. Est-ce qu'on a envie de remettre un jeton dans la machine et continuer à consommer comme on fait, ou est-ce qu'on est prêt à une réforme, je ne sais pas, peut-être pas une révolution, mais en tout cas une réforme de soi par soi, et finalement une autorégulation de son désir. Et là, effectivement, là, on entre vraiment vers une sagesse, je veux dire, à l'antique.
Madame, pardon.
Oui,
je vous en prie. Tout à l'heure, il y a un mot qui a été prononcé, que j'ai trouvé intéressant, c'est le mot choix. Et vous avez parlé aussi de sobriété dans l'alcool, je me suis dit que la sobriété, pour moi, elle fait référence d'abord à ce qui a un peu été évoqué, c'est-à-dire qu'on ne peut parler décemment de sobriété que si un minimum de besoins vitaux ont été satisfaits, tout en étant conscient que les besoins vitaux sont très différents suivant les personnes, suivant les lieux, etc. Mais en deçà d'un certain niveau, ça peut être indécent de parler de sobriété. Par contre, sobriété, chacun la situe au-delà du choix dans lequel il assigne l'outil pour lui, à ce moment-là, c'est pour moi quelque chose qui est non pas on consomme ou on ne consomme pas, parce que sobriété et consommation, en termes d'alcool par exemple,
sobriété, l'exemple que vous avez donné, c'est ne pas consommer. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot consommer. Et comme on disait, la sobriété fait référence pour moi à la consommation. Pas à quelque chose qui est de l'ordre de la team ou du désir, mais bien à quelque chose qui est de l'ordre de ce que l'on fait, de ce que l'on consomme, du bien, pas des idées, pas des pensées.
Ah oui, d'accord.
Et comme la consommation, vous avez fait le lien, et c'est fait, elle est quand même très soumise au désir que l'on crée, ou du moins que l'on oriente, que l'on crée des besoins, c'est là que la notion de choix est importante. C'est-à-dire que dans la sobriété, on se reprend avec intelligence, c'est-à-dire qu'on se repose, on se repositionne en se disant, on interroge nos choix. Et c'est là que je trouve que cette période qui est soi-disant récente, mais qui est, pour laquelle on a quand même des alertes depuis des dizaines et des dizaines d'années, nous oblige à nous poser la question du choix. Non pas du choix de nos désirs, parce qu'on a les désirs qu'on a, mais du choix de la manière dont on va se laisser ou non porter par ses désirs ou guider par ses désirs, comment on va les maîtriser et comment on va se donner peut-être les moyens de les satisfaire autrement, non plus forcément en passant toujours par la consommation qui fait lien avec, avec la sobriété, sobriété plus ou moins, mais qui fait lien, mais plutôt en se disant comment je peux satisfaire mes désirs autrement que par la consommation, donc introduire des choix dans mon niveau de vie.
Bien, merci madame. Je vous laisse peut-être réagir. Madame.
Sur la notion de désir, pour moi, le désir, c'est ressentir l'envie de quelque chose, et pas forcément quelque chose qui s'achète. Le désir, c'est, comme beaucoup de personnes l'ont déjà évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous anime, pas forcément quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Donc du coup, la sobriété, c'est vraiment une façon de penser. Par exemple, on peut désirer avoir, être plus sobre pour limiter des pensées de jalousie ou de rancœur, etc. Et donc du coup, la sobriété pourrait être un désir. En fait, tout pourrait se mélanger et se confondre.
Oui, je me permets de... Oui, je pense que là, il y a deux idées qui ne sont pas forcément contradictoires, mais en tout cas qui sont différentes, peuvent être complémentaires. Ce que vous avez justement...
On reprend la main. On reprend la main et on ne subit plus nos désirs, mais on les accepte et on décide si on va les satisfaire au travers de bien, on nous oriente. La société nous oriente nos désirs vers la consommation de bien, alors qu'effectivement, c'est tout à fait traduire nos désirs autrement que par la
vie. Oui, et j'irais même plus loin, je pense qu'on peut désirer le fait de ne pas être manipulé. D'avoir un éveil de conscience et de rien
en choix. Tu vois la vie, et tous les plus, on se reconsidère en être intelligent et ne pas en être issu de son arrière, ce qu'on veut.
Madame.
Pour rebondir sur ce que disait madame par rapport effectivement à mon désir, par exemple, on peut avoir le désir de voyager, on est obligé de prendre un avion pour aller week-end, je trouve que c'est bien dire la train,
donc la sobriété ne porterait pas sur le désir mais sur les moyens d'accomplir son désir. Donc je voyage, je conserve mon désir de voyager, je conserve la satisfaction de voyager, cette réalisation, mais je porte ma raison effectivement me conduit à adapter des moyens de locomotion plus sobres. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble là qu'il y a deux idées qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires, c'est que vous semblez, si j'ai bien compris votre intervention, assimiler ou en tout cas entendre la sobriété par rapport à la question de la consommation. Donc, tel ou tel bien, consommation soit d'un service, soit d'un bien matériel. Voyager ou obtenir le dernier téléphone portable à la mode. D'accord. Et vous, madame, je pense que vous apportez une autre idée en disant mais on peut aussi tenter, s'évertuer à être le ou la plus sobre possible quant à nos jugements, nos valeurs, nos ambitions, nos normes, bref, ce qui nous habite, nos désirs. On parlait de désir de... Je ne parlais plus de l'exemple que vous aviez noté. Voilà. Et moi, c'est un peu la question que je vous avais posée tout à l'heure en début de discussion. C'est, je me demande si, finalement, on ne pourrait pas envisager une réconciliation de l'idéal de sobriété, entendu comme idéal de simplicité, et la question du désir, qui, le désir, il est là, encore une fois, c'est l'essence de l'homme, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait que demain matin, on va encore se lever et puis aller faire ce qu'on a à faire. Si on ne pourrait pas trouver finalement une sorte de dialogue possible, non pas dans la consommation, mais dans les jugements que l'on porte, dans les ambitions qui sont les nôtres. J'entends par là, je vous laisse la parole, finalement, désirer la sobriété, désirer la simplicité. Si je prends par exemple, cet exemple que je prenais tout à l'heure sur la question de l'ascension sociale, ou désir de pouvoir, finalement, mais se pose la question, reprendre la main, comme vous l'avez fort bien dit, à quoi bon? Pourquoi est-ce que je voudrais grimper dans la hiérarchie de la boîte qui m'emploie? Pourquoi est-ce que je voudrais être professeur, je suis enseignant, à l'université, au Collège de France, à la Sorbonne, à Harvard? Pourquoi est-ce que je voudrais avoir, si j'étais un don juan, mille et une conquêtes? Pourquoi est-ce que je voudrais visiter tous les pays du monde? Pourquoi est-ce que je voudrais... Enfin, voilà. Et finalement, c'est pas tant ici un rapport à l'objet, à la personne ou la situation que je désire, à la consommation, qu'un rapport, finalement, à mon propre désir. Finalement, peut-être que le bonheur, parce que c'est ce que vous avez dit, madame, au tout début dans votre intervention, vous avez assimilé sobriété et vie heureuse. Pour reprendre un bouquin de Pierre Rabhi, je vais vous laisser la primeur. Je vais vous laisser la primeur, d'accord? Finalement, essayez de se dire, mais vraiment, je repose ma question, à quoi bon? À quoi bon vouloir, encore une fois, être le plus haut, plus loin, plus haut, plus fort, plus vite, pour reprendre la devise olympique, là? Pas forcément un colibri, plus que ça, même moins que ça.
Plus, non,
un atome dans l'univers. Ce que nous sommes. Alors, dans l'ordre, il y a madame et monsieur. Oui,
oui, par rapport à ce que vous venez de dire, mais le à quoi bon, c'est quoi la limite? Parce que je me dis à quoi bon, toujours à quoi bon, effectivement, on revient à poussière, etc. Le moteur de vie lui-même est tué. Et je me dis que par rapport à reprendre la main sur la sobriété, les désirs, etc., est-ce que finalement, pour répondre à la question, la réponse entre désir et sobriété, c'est pas juste l'apprentissage de la gestion des frustrations, parce que ça soit sur un bien matériel, que ça soit sur un désir immatériel, sur une envie de joie, de je ne sais quoi, est-ce que c'est pas tout simplement ça, si on peut dire tout simplement, est-ce que ça ne met pas en question la pulsion de vie?
Ah, madame, oui, dans l'ordre, je pense que
finalement, est-ce que la sobriété ne passe-t-il pas par un certain lâcher prise? Parce que finalement, on se trouve comme tout le monde l'a dit, entraîné hein, par la publicité, par plein de choses, on pourrait peut-être se dire, mais finalement, je n'ai pas besoin de tout ça. Je cherche, moi, ce qui me convient le mieux, et je déblaye. Et je ne vais que.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire essayer d'épurer. Voilà, on revient sur la question de la simplicité, on épure, un peu comme un...
Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un, par exemple, moi ça m'est arrivé, je voulais aller voir 3 ou 4 ou 5 expositions qui me tenaient à cœur. Vraiment, et puis, ça, je ne pouvais pas, c'était trop, j'y arrivais pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, stop, là c'est trop. Une ou deux, ce sera bien. Les autres, tant pis. À la limite, il y aura le mec qui compensera. Enfin, voilà. Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est un peu ça, la sécurité. On est envahi par la même chose qu'on a en fait, et on ne peut pas. Donc, on lâche plus. Non, je voudrais un téléphone portable, il ne m'intéresse pas, j'en ai un commun. Je lâche plus. Toi, t'en as un, c'est bien pour toi, mais pas bien.
Ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien entre reprendre la main et lâcher prise. Non, c'est que pour reprendre la main, il faut lâcher. Oui, madame.
Oui, ce que je veux
voulais dire, que vous avez fait le lien, effectivement, ça m'a fait penser à Pierre Rabhi et la solidarité à la vie heureuse.
Peut-être pourriez-vous présenter pour l'Assemblée, que tout le monde ne connaît pas forcément.
Donc Pierre Rabhi, c'est quelqu'un au départ de très simple, hein, c'est qui finalement a fait une philosophie de sa vie et qui a construit autour de lui un mode de vie très simple, où il remettait au centre l'essentiel, que ce soit dans la vie sociale, dans sa famille, etc. Il a développé un certain nombre de réflexions très simples sur ce sujet, et c'est vrai que je trouve que ce qu'il développe est assez intéressant parce qu'il revient à l'essentiel, c'est des choses simple, et quand on le lit, c'est assez limpide, en fait, et c'est vrai qu'il y a une certaine simplicité qui sort, et finalement on se dit qu'il avait certainement parti réduit, voilà.
Mais alors, Pierre Rabhi était agriculteur, partisan de l'agroécologie. Effectivement, quand on lit... Quand j'ai lu assez récemment, là, pour la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, c'est pas tant une philosophie avec des leçons de vie, des sagesses, etc., que un récit finalement de son propre parcours. Et son propre parcours, effectivement, c'est ce que vous disiez, madame, c'est finalement de reprendre la main en lâchant prise et de revenir à ce qu'il considère comme étant essentiel, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le rapport à la nature, à la terre, à l'agriculteur, et à ses besoins, j'allais dire un peu à l'Épicure, besoin du corps, besoin d'amitié, et cohérence avec soi-même. Oui, monsieur.
Oui, je voudrais développer un peu sur le désir, parce que... J'entends le désir de simplicité, oui, le désir de sobriété, oui, pourquoi pas, mais moi, j'ai plein d'autres désirs. Alors, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais désirs? Est-ce que... Et est-ce que je peux m'auto-frustrer? Est-ce que moi-même je peux m'interdire des choses? Ou est-ce que c'est pas plutôt la société qui... Enfin, c'est dans mon rapport aux autres que la frustration peut apparaître. C'est-à-dire quand on dit non à un petit garçon, à une petite fille, pardon, à un petit enfant, voilà. Quand on lui dit non, on le frustre. Pardon. S'il veut une sucette et qu'on lui dit non, il y a l'apprentissage de la frustration, mais c'est dans le rapport à l'autre que ça se fait. Mais est-ce que moi-même, je peux m'auto-frustrer? Je ne suis pas sûr que je puisse y arriver tout seul. Donc, voilà, c'est désir de simplicité et de sobriété, oui, pourquoi pas, mais est-ce que ça suffit pour vivre? Et est-ce qu'on est tous partants sur cette... on n'est pas tous partants.
Ça, c'est encore autre chose.
Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment... on peut vouloir des choses, mais comment dans la société, comment la société elle-même se comporte face à ce besoin de ce besoin de sobriété ou cette nécessité de sobriété ou ce désir de sobriété.
Je vous laisse peut-être réagir, monsieur, vous vouliez prendre la parole.
Ouais. Moi, la notion de désir, quand on l'entend, ça me fait penser déjà à Spinoza, qui dit que nos désirs, finalement, ils sont déterminés. Et en gros, pour vous expliquer, en gros, enfin, je sais pas si vous êtes. Vous connaissez tous ce principe, c'est qu'en gros, on les décide pas vraiment, c'est toutes les structures qui nous entourent. Qui décide à notre place.
J'ai conscience de mes désirs, mais j'ignore les causes qui les déterminent.
Voilà, c'est ça. Et justement c'est, ce qu'il nous dit, c'est que pour pouvoir les, entre guillemets, les contrôler, il va falloir les comprendre déjà. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on se croit un peu libre, on l'est encore moins finalement.
Parce qu'on est l'objet de ces causes qui nous déterminent. Enfin, pour Spinoza, on ne va pas transformer ça en cours de philosophie, à la fois des causes physiques, somatiques, des causes corporelles, des dispositions du corps, et des causes, on va dire, c'est pas le langage de Spinoza, mais des causes sociales, on va dire, qui sont celles de l'éducation, qui sont celles de l'environnement, du type de culture dans laquelle nous vivons, on évoquait tout à l'heure sur l'influence des publicités. Effectivement, mais c'est un des éléments de réponse à votre relance qui était très pertinente. Y a-t-il de bon ou de mauvais désir? Pour Spinoza, il y a le désir qui est l'essence de l'homme, c'est le conatus, c'est l'élan vital. Et puis après, il n'y a pas de bon et de mauvais désir. il n'y a que des désirs que je subis, je suis agi, Spinoza. D'accord, je suis traversé par des désirs dont je prends conscience ou pas, mais dont j'ignore la cause, et je peux reprendre la main, pour reprendre l'expression qui est très, très pertinente, je peux tenter de reprendre la main par la conscience, la compréhension et la connaissance de la cause de ces désirs. Et là, effectivement, on revient un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'idée de manipulation. C'est-à-dire comment éviter de se faire manipuler par des désirs qui ne sont pas les miens, qui me traversent, que je vis comme étant les miens, mais qui ne sont pas les miens parce qu'ils sont construits par d'autres causes que ma propre subjectivité. Comment finalement reprendre la main? Comment éviter cette manipulation? Par un travail de connaissance. Par un travail de connaissance, par le travail de la science, des sciences sociales, des sciences de l'esprit, des sciences du corps, par un travail de connaissance. C'est la connaissance qui va me permettre de m'émanciper de ces désirs dont je suis finalement l'objet. Je ne suis pas le sujet de mes désirs, je suis l'objet de mes désirs. Oui, madame. Je vais peut-être... Je ne voudrais pas susciter la frustration.
Je comprends tout à fait quand on est adulte, c'est possible de choisir, d'être sort, de mais quand on est plusieurs enfants et que les plusieurs enfants veulent tous faire des études assez poussées, et du coup, les bourses ne suffisent pas, et du coup, les parents, les adultes, ils sont obligés de rentrer dans la société de consommation et puis de trouver un emploi, de trouver, enfin, d'être frustrés eux-mêmes pour satisfaire les désirs des enfants. Ils ne sont pas encore adultes, ils ont le droit d'aller jusqu'à un certain niveau pour après choisir leur vie. Mais les parents, quand ils ont leurs enfants à ce niveau-là, ne peuvent pas choisir complètement leur vie. C'est facile une fois que les enfants sont partis.
Il y a des pesanteurs.
Il y a le désir d'aider ses enfants à aller dans la vie.
Oui, le désir, mais quelquefois on choisit quelque chose qui n'est pas notre projet de vie. Alors, ou alors pas.
Alors tout à l'heure on supprimait les personnes de 90 ans et... on en plaisante, mais ce parenthèse par rapport à votre dernière remarque, ce désir de ne pas donner la vie, il est aujourd'hui assez je sais pas prédominant, pas forcément, mais en tout cas oui, c'est quand même une tendance qu'on a qui monte chez les générations, chez les jeunes générations, pour d'autres raisons forcément que la sobriété, pour des environnementales et sociales, effectivement. On reprendra votre intervention. Alors, dans l'ordre, excusez-moi, j'ai pas suivi. Madame, monsieur et madame. Madame.
Par rapport à Pierre Rabhi, parce que peut-être moi je sais pas. 90 n'est pas loin. Et donc, en fait, il a quand même aidé aussi beaucoup de pays du Maghreb avec cette agro-agriculture, enfin, avec des produits sains. Et comment faire une agriculture, puisque j'ai travaillé plus tôt, enfin, j'ai travaillé au bénévole et au volontaire, travailler dans ce cas-là, parce que c'était. Et donc, je pense que Pierre Rabhi, pour ça, a effectivement quand même dit qu'effectivement, il y avait un besoin et les désirs dont vous parliez, le désir de se nourrir et de contribuer à la société. C'était ça surtout aussi, c'était contribuer à la société dans le cadre d'une sobriété. D'où le petit colibri.
C'est juste. Monsieur ?
Oui, quand on posait la question, c'était des bons et des mauvais désirs. Évidemment, ouais. Quand on parle de sobriété, ça sous-entend que quand on n'est pas sobre, c'est qu'on est intempérant et donc que ce sont des mauvais désirs. C'est une notion morale. Et par rapport à l'intervention de madame, on a aussi une notion morale qui arrive, c'est la notion de sacrifice. Je me sacrifie pour mes enfants pour qu'ils puissent faire des bonnes études. Donc,
Ah oui, non mais.
Ils sont pour. Voilà, c'est-à-dire où je me sacrifie pour la société, pour la planète, pour les gaz à effet de serre, donc la notion de sacrifice, ce qu'ils donnent de moi pour un bien commun, peut-être.
Oui.
Pour bien d'autres personnes. Donc cette notion morale est peut-être un peu chrétienne.
On y reviendra sur la notion de sacrifice. Madame, vous vouliez réagir tout à l'heure.
Oui, d'abord, par rapport à ce qu'on disait sur l'éducation des enfants, par rapport au désir, il y a quand même un élément qui est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un principe de réalité avec lequel il faut qu'on fasse. On n'est pas dans un monde idéal. Tous les parents vont peut-être vivre, payer les études à leurs enfants si c'est possible, ou si les enfants ont envie ou des capacités. Mais tous les parents n'en auront pas les moyens, et pour autant, si on ne fait pas preuve d'imagination, d'intelligence, de réflexion, y compris dans ces situations-là, pour avoir des désirs accessibles, alors autant soit ne pas avoir d'enfants, soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un principe de réalité qu'il ne faut pas ignorer. Et quand on parle des désirs bons ou mauvais, ce qui me paraît important, c'est de se dire qu'on est. Moi, j'ai été très choquée quand quelqu'un a parlé de ce qui est resté dans notre cerveau, le petit peu de place libre qui est resté dans notre cerveau. Je ne sais plus à quel moment.
Ah, c'était Patrice Lollet, si c'est bien ça, à quoi vous faites référence? L'ancien président directeur général de TF1 qui disait mon métier c'est pas de faire de la télé, mon métier c'est de vendre du temps de cerveau disponible.
Voilà.
Et c'est à Coca-Cola.
On est sans arrêt considéré soit coincé dans des contraintes, soit coincé dans des injonctions, soit coincé par un principe de réalité. Et je me dis, mais tout à l'heure quand vous avez parlé d'accès à la connaissance, à la science, j'allais dire, ce qui est fondamental pour arriver à comprendre comment on veut vivre, quels sont les choix que l'on veut faire, parce qu'on a une intelligence, on est capable d'apprécier la situation dans laquelle elle est, qui n'est pas la même pour les uns et pour les autres, que ce soit les besoins ne sont pas les mêmes, le contexte environnemental n'est pas le même, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes possibilités, mais on a tous une forme d'intelligence qu'on peut nourrir, qui va nous amener à faire des choix qui nous comptent. On est dans des contextes où on tient compte ou pas de la morale. Chacun est un capital historique, culturel, familial, et on se sert de ça. Et si on ne s'en sert pas, à ce moment-là, ben on va subir, on va dire, oh là là, c'est dommage, je ne peux pas faire ci parce que je n'ai pas les moyens. Mais non, on est des ressources, on est la principale ressource dans les choix qui vont s'imposer à nous. On n'aura pas tout ce qu'on veut, mais on sera en capacité de choisir à condition qu'on se donne, qu'on se considère comme en capacité suffisamment intelligente pour choisir. Et je pense que c'est une question de ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on la travaille cette intelligence, on la travaille avant, on la travaillera après, et tout le monde à tous les niveaux a cette capacité-là. Et c'est la capacité d'être. De se ressaisir, de redevenir, de choisir notre vie présente et de choisir notre avenir. Et non pas de se dire, c'est vrai, on subit ci, on subit ça, oui.
Très bien.
Mais on ne peut pas le suivre.
Merci. Dans l'ange, je ne me rappelle plus. Non, madame, non, je ne me rappelle plus. Il y avait une main levée tout à l'heure, pareil. C'était vous?
Oui. Ouais. C'était juste une remarque par rapport à ce que madame venait de dire, c'était que. Si on nous considérait peut-être plus comme des adultes, peut-être qu'on agirait peut-être plus comme des adultes aussi. Quoi. C'est ça, voilà.
C'est à nous de nous imposer comme des adultes.
Ouais, ouais.
Et par exemple, quand une émission est débile à la télé, c'est à nous d'éteindre la télé, de leur dire, mais vous nous prenez pour des imbéciles, on est capable de mieux que ça. Donc on peut faire ça.
Madame. Madame,
et puis après. Oui, je voulais revenir sur Spinoza. Si j'ai bien compris,
cette idéologie où on est dans une société où ils voudraient valoriser le désir, la sobriété, le désir de la mouvance, on serait traversé par de nouveaux désirs, peut-être, de sobriété, quand ce serait quelque chose que collectivement on aurait tendance à
dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, une remarque un peu comme ça à l'emporte-pièce. Par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Je pense que les jeunes générations n'ont pas forcément des modèles de réussite sociale qui sont ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui sont des modèles de réussite, d'ascension sociale, de consommation, de possession, etc., enfin, d'accumulation de capital. On le voit bien, enfin, on a quand même pas mal de jeunes gens qui, après leur diplôme, font des choix de, on appelle de bifurcation, entre guillemets. C'est encore une bifurcation par rapport à un modèle qui consiste à finalement ne pas aller vendre sa force de travail dans des grandes entreprises qui vont détruire la planète ou détruire d'autres personnes que soi, ou se détruire soi-même, d'accord, et qui, c'était ces jeunes diplômés de Paris... voilà, qui, c'est le discours de ces jeunes gens. Et je pense que ce que vous dites là, c'est qu'effectivement, c'est une question de type de socialisation. Peut-être que dans cette... dans ce, allez, soyons un peu fous, un peu candides, un peu utopiques, comme un philosophe dans sa vision, dans sa version caricaturale. Dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous par tant de, même pas une crise, par tant de, finalement, de nécessités écologiques, les types de socialisation vont se modifier et peut-être que le désir va s'orienter vers un désir de simplicité, vers un désir de modération, vers un désir de sobriété, reprenant les trois termes, sans qu'il y ait nécessairement un sentiment de frustration. Je me permets de prendre la parole encore deux petites minutes, mais je parle de Spinoza, je reviens à Épicure. Parce que l'une des grandes leçons d'Épicure, c'est de nous dire finalement que tout plaisir doit être... le plaisir est la fin, le commencement et la fin de la vie heureuse, dit Épicure, mot à mot dans cet être MLC. Et c'est parce que nous cherchons le plaisir, nous cherchons à satisfaire nos désirs en vue du plaisir, que tout plaisir n'est pas souhaitable. Et qu'en ce sens, il n'y a pas de bon et de mauvais désir. Au sens moral, c'est pas de la morale. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas des salauds et des gens qui seraient des saints. Il n'y a pas de sens moral, par contre... il y a un sens éthique. Et c'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas le bien et le mal, il y a le bon et le mauvais. Il y a le bénéfique et le malheureux. Il y a ce qui va accroître, pour parler de nouveau comme Spinoza, ma puissance de vie, et ce qui va la diminuer. En gros, ce qui va m'investir, me permettre de m'investir dans l'existence, et ce qui, au contraire, va me dégrader, va me précariser, va me rendre triste et malheureux. Et donc, en ce sens... le calcul que je vais faire, parce qu'il y a bel et bien un calcul éthique qui va s'opérer, c'est, puisque je suis un être de désir, puisque le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse, je vais devoir sélectionner mes désirs, qui ne sont pas bons et mauvais en soi. Simplement, ils vont me rendre malheureux, ils vont rendre les autres malheureux. Ils vont me rendre malheureux en rendant les autres malheureux. Et Épicure fait rapidement, je termine sur cette petite présentation un peu court de philo, je m'en excuse. Épicure fait une rapide distinction entre trois types de désirs, ce qu'il appelle les désirs naturels et nécessaires, ce dont on a parlé en début de débat, c'est-à-dire les besoins, dans lesquels il range l'amitié et le rapport à soi-même. Ce qu'il appelle ensuite les désirs qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, parce que nous, on a plutôt l'habitude de penser comme étant le désir au sens du superflu, du contingent, du superficiel, voilà, le téléphone portable, la grande maison, le sauna, la voiture, le voyage je ne sais où, en paquebot. Et puis, ce qu'il appelle les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires. C'est-à-dire des désirs que je ne pourrai jamais satisfaire et qui vont me rendre malheureux si je m'évertue à les satisfaire. Le désir d'une gloire éternelle, le désir d'un pouvoir infini, le désir d'une conquête impériale, le désir d'immortalité, transhumaniste, par exemple. Et finalement, ici, c'est la raison qui intervient. La raison me met en garde en me disant, mais si tu cherches à satisfaire des désirs qui ne sont pas en adéquation avec ta nature humaine, avec ta condition d'homme ou de femme, tu seras malheureux. Et tu seras frustré, et t'en voudras la terre entière. Si tu es aveuglé par les désirs qui sont naturels, manger plus qu'il ne faudrait, boire plus qu'il ne faudrait,
voilà des désirs qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, tu vas tomber dans l'excès et l'excès va te rendre malheureux. En revanche, si en faisant travailler ta petite raison, tu t'orientes vers des désirs qui sont naturels et nécessaires, qui sont ceux du corps et de l'amitié et de l'harmonie avec soi-même, alors tu seras heureux autant qu'un dieu de l'Olympe peut l'être, c'est référence à Zeus. Un peu de pain et un peu d'eau suffisent au bonheur du sage, a dit Épicure. Alors il n'y aura pas de sentiment de frustration. Alors on ne sera pas en train de se dire finalement, mais qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie, pourquoi j'en suis là, etc. Ou et mes enfants, et mes petits-enfants, etc. Il n'y aura pas de sentiment de frustration, puisque finalement, de nous-mêmes, on comprendra que il est des biens et des situations, il est des objets du désir qui, encore une fois, ce n'est pas de sens moral, qui, d'un point de vue éthique, ne sont pas à suivre, ne sont pas à poursuivre, parce qu'ils sont source de malheur. Et donc, finalement, c'est un peu la leçon d'un Pierre Rabhi, je suis en harmonie complète, je suis totalement plein au sens propre du terme, je suis absolument heureux, je suis sans trouble, je suis en interaxie, pour parler comme un grec, je suis en paix avec moi-même, je suis serein, puisque finalement, je ne désire que ce que je me dois de désirer pour être le plus heureux possible. Et donc, il n'y a pas de frustration. Excusez-moi, j'ai parlé longtemps.
Il y avait Marcel.
Alors, oui, Marcel.
Oui. Je sais ce que je dis. Il me semble que tous les échanges tournent autour de l'individu, sont centrés sur l'individu. Or, personnellement, j'ai toujours une difficulté, c'est isoler l'individu de l'être social. Nous vivons en société. Et par rapport à la question posée, il me semble que le fonctionnement actuel de la société, notamment si on prend des éléments d'économie, ne sont pas du tout centrés sur la sobriété. Et cette pression sociale s'exerce quand même sur l'individu. Et notamment, alors, personnellement, je pense que le ressort important qui est utilisé, me semble-t-il, dans cette pression sociale, c'est le paraître. Et la sobriété ne serait-elle pas le facteur qui permet à l'individu d'être sans tomber dans le paraître? Et si effectivement mon désir c'est d'être, et non plus de paraître,
non pas d'avoir,
je n'ai pas de frustration par rapport à la sobriété apparente, j'ai envie de dire, ça devient. En ce qui me concerne, ça devient une sobriété apparente par rapport à d'autres éléments de comparaison, mais c'est un élément de vie, j'ai envie de dire, bon, je suis. Je suis, et ce que je ressens, mes demandes, etc., me suffisent. Parce que je ne sais pas si... Donc, je n'ai pas de frustration je suis sobre. Je suis sobre parce que ce sont mes demandes. Elles me conviennent.
Très bien. Quid, on reviendra sur votre remarque, madame, quand on est à la charge, quand on a la charge d'un tiers, d'un enfant. Je ne sais plus dans l'ordre. Désolée, madame.
Oui, je suis assez d'accord, je voulais dire un peu ça, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de frustration, tout seul, chacun dans son coin, on peut y arriver avec sa raison, avec tout un tas de trucs, mais la société, effectivement, les désirs, c'est pas vraiment nos désirs, c'est des désirs qui sont fabriqués par tout un tas de choses, et c'est vrai que, comme disait la dame, si la société érige en modèle des choses différentes, alors la société, c'est des humains aussi, des individus, bien sûr, mais forcément les désirs seront décentrés, on aura désir d'autre chose qui seront comblés et du coup on sera heureux et on n'aura pas ce sentiment de frustration. Mais là je pense que la croisée des chemins dont vous parlez, c'est effectivement qu'on est obligé de constater que la société actuelle de consommation, de surconsommation, d'abondance qu'on a connue, qu'on nous a vendue, dans laquelle les enfants ont grandi, et parfois nos enfants et nos petits-enfants auront une notion différente de ce qu'il faut pour être heureux aussi. Je pense que cette société-là, actuellement, est complètement incompatible avec un discours de sobriété. Et que
parfois, de l'œuf ou de la poule, on commence parfois chacun se dire bon, je me réduis ceci, je me réduis ça, je suis extrêmement frustré, je suis dépressif, etc. Ou la société avec les individus conduit à réfléchir à une autre forme de bonheur indépendamment de la consommation. Mais je pense que c'est ça qui ne va pas actuellement, c'est l'écologie, la décroissance, il faut continuer à vendre beaucoup de voitures, mais il ne faut plus mettre d'essence. C'est ça qui nous perturbe, c'est que, et du coup qui nous culpabilise, et les politiques nous culpabilisent, alors que c'est un schéma général qu'il faudrait modifier. Et sans doute qu'on est capable de vivre sans téléphone portable, ou sans grosse voiture, ou tout ça, mais c'est lié, et chaque individu, là, n'a pas la clé, c'est bien la société qui a la clé de ça.
C'est que par rapport à la personne qui parlait des études de ses enfants, la société, si elle a quand même un devoir envers les citoyens, elle doit aussi offrir la possibilité à des choses qu'elle estime indispensables à tous. Et les études, notamment l'éducation, les études, ça en fait partie. Donc la société aussi, c'est une société qui est un peu utopique, elle est peut-être une problème. Elle doit offrir la possibilité
par un système de répartition de la richesse produite, des bourses, des aides, des accompagnements, oui. Madame, monsieur.
Et moi, quel pouvoir j'ai sur la société? Aucun. J'ai que mon pouvoir dans le bulletin de vote ou dans les actes que je pose, mais je n'ai pas de pouvoir sur la société. Je suis d'accord, hein, la société, mais la société, qui peut la changer? Ben, que nous. Et nous, c'est que chacun de nous. Bien, moi, on peut vouloir que la société ne soit pas scellée, et ça, je partage, hein, mais.
Il y a toute une organisation au niveau économique, oui, très complexe, avec les formations, oui, enfin, oui, toute une complexité.
La société n'est composée que d'êtres humains. Donc c'est à chaque être humain.
Oui, mais de notre place.
Si chaque être humain fait quelque chose, il va briller, c'est une chose, ça ne changera rien.
Ça ne change pas complètement.
Il faut qu'il y ait un ensemble. Oui.
Allez, donc une société.
Je laisse la parole à monsieur. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment deux visions. Alors vous avez une vision à la Épicure. C'est-à-dire, l'homme, chacun est souverain, maître de soi-même, maître dans son domaine. Et finalement, Épicure, c'est comment être heureux par temps de crise, comment être heureux par gros temps.
Mais ça ne veut pas la notion d'autre. Ça ne veut pas dire la notion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la notion des autres.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est qu'à défaut de prétendre de pouvoir espérer changer l'ordre social, nous commençons par soi-même, commençons par une réforme de soi.
Les sociétés sont plus complexes.
Ce à quoi on pourrait rétorquer, oui, très juste, moi-même je suis un grand, grand lecteur et un grand fan de cette philosophie. Ce à quoi. Non, ouais, toi, ça. Excellent, cette formule. Oui, ce à quoi on peut aussi rappeler que nous sommes traversés. Malgré nous, nous sommes des atomes sociaux, nous sommes traversés par des forces sociales, conscientes et inconscientes, et il y a des structures sociales qui visent à une répétition, une reproduction des schémas d'existence, d'ambition, de réussite sociale, professionnelle, etc., dont on a bien du mal, et je suis d'accord avec vous, moi je reste assez convaincu par votre position, mais dont on a bien du mal à se défaire, c'est-à-dire que reprendre la main, faire des choix, s'adapter, faire fonctionner sa raison, rappeler la typologie des désirs, comme j'ai fait tout à l'heure avec Épicure, certes, très juste pour cette réforme de soi, toute réforme de soi individuelle et individualiste, elle est parfois ou même souvent bien difficile à accomplir, parce que nos désirs sont construits par ailleurs, parce que nous sommes pris dans des injonctions contradictoires. J'ai un désir de sobriété, mais j'aimerais bien que mes enfants réussissent. J'ai un désir de sobriété, mais j'aimerais bien aller voir tel ou tel peuple là-bas aux antipodes. J'ai un désir de sobriété. Bref, on est pris dans des injonctions contradictoires. Et cette réforme de soi, au moment où on va devoir trancher dans le choix qu'on va opérer, elle est quand même bien difficile à opérer.
Juste,
10 secondes parce que.
Si ce n'est pas chaque individu qui peut contribuer au changement de la société, par quel miracle ou quelle prière, si on en est là, la société va-t-elle changer d'elle-même?
Alors, il y a l'individu pour lui-même et il y a l'individu qui s'associe avec d'autres. Dans des mouvements collectifs.
L'individu s'associe avec d'autres. Il faut que l'individu s'associe avec d'autres. C'est vrai que ça part de l'individu. Des individus.
On est plusieurs êtres sociaux. Oui, dans l'ordre, il y avait monsieur.
Oui. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de société. Il y a plusieurs sociétés. Dans le sens où, par exemple, il me revient à l'idée. Une vallée du fin fond de. Enfin, pas du fin fond, des Pyrénées, où les gens sont organisés. Donc, une petite vallée, donc une société, avec des agriculteurs, des commerçants, des gens qui vont travailler à l'extérieur, mais qui vivent là, etc. Et qu'une société rurale qui se développe, c'est-à-dire que la population de cet ensemble de communes augmente au fil des années, au fil des ans. Parce qu'il y a des gens qui vivent de leur production et qui donc en attirent d'autres, enfin bref, etc. Donc c'est une petite société qui a, avec des valeurs de sobriété, parce que tous les agriculteurs sont dans le bio, le paysan que j'avais vu, il m'a dit j'ai 60 vaches, mais j'en veux surtout pas de plus parce qu'après ça va devenir ingérable, et... je ne ferai pas plus de fromage que ce que j'en fais aujourd'hui, et je ne vous en enverrai pas à Orléans parce que c'est trop compliqué de l'envoyer à Orléans, même s'il est bon mon produit, je préfère le vendre localement. Donc, je pense qu'il y a des. On peut très bien, en tant qu'individu, on va intervenir, je pense qu'on va avoir plus de pouvoir, plus de possibilités d'intervenir dans une société locale, enfin dans une micro-société. Donc, quand on dit qu'il faut consommer local, il faut se déplacer en vélo, on va pas, enfin si, certains le font, mais il leur faut beaucoup de temps à l'autre bout du monde en vélo. Donc faire du local, ça peut-être permettre de modifier, de faire bouger la société locale autour de soi. Mais c'est vrai que quand on parle de monde, voilà, le risque à ça aussi, c'est que en faisant du local, on se referme, on ne soit pas ouvert aux autres, on ne soit pas ouvert aux gens qui sont différents, qui viennent d'Afrique par exemple, parce qu'ils n'ont plus à manger dans leur pays et qui viennent chez nous et qu'on a du mal à accueillir. Entre parenthèses, dans cette vallée-là, il y avait aussi un centre d'accueil pour réfugiés dans cette vallée des Pyrénées. Donc c'est dans le domaine du possible. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a cette localement, on peut peut-être faire plus de choses dans un cercle restreint. Et après, c'est peut-être les cercles eux-mêmes, différents petits cercles, qui vont faire une société plus globale, plus grande, et qui vont pouvoir faire bouger les choses au niveau plus au monde. Mais c'est vrai que le risque du local, parce que c'est aussi très à la mode, et on entend aussi à droite, bien droite, l'extrême droite, souvent des gens dire « Oui, il faut faire du local, il faut consommer local. »
On appelle le localisme. Ouais.
Le localisme, avec ses travers, c'est-à-dire qu'on refuse la différence. Mais malgré tout, je pense que c'est localement qu'on peut commencer à faire bouger les choses. Hein.
Oui, alors, madame.
Moi, je voudrais juste rebondir la.
Très bien, alors, allez-y, madame. Ouais.
En fait, comment dire. Oui, en fait, je connais pas mal de personnes en fait, qui ont décidé de négocier un virage à 360 degrés et puis à se retrouver effectivement dans un endroit où ils vivent à plusieurs et ils sont en totale communion avec la nature. Il y a des valeurs en fait qui les unissent comme le respect, la solidarité, l'entraide, la bienveillance, la tendresse. Toutes ces valeurs qui, somme toute, sont tombées un peu en désuétude dans notre société. Et je pense que là, pour le coup, il n'y a pas de frustration. Parce qu'en fait, ils ont réellement choisi ce mode de vie. Et puis, je veux dire, oui, dans un esprit solidaire et puis même de relations avec les gens dans le village ou plus loin, quoi.
Ils sont simplement, à un moment donné, bifurquer, c'est-à-dire se dire, bah, je détourne la tête et je m'aperçois qu'il y a un autre horizon. Et que cet autre horizon, il est peut-être tout aussi, voire peut-être plus désirable que celui que que mon type d'éducation, mon type de socialisation m'a laissé désirer pendant toute une partie de mon existence, effectivement. Madame. Donc travailler sur les imaginaires. Ouais. Je me permets juste j'y pensais au moment où vous interveniez ce soir là sur France 2. Je crois que c'est sur France 2 et sur la radio publique également. Il y a toute une émission que le service public propose autour des arbres. Ils ont nommé ça aux arbres citoyens. J'ai entendu ça ce matin. Et c'est un programme relativement neuf, c'est-à-dire que on a rarement eu à 20h30 ou 21h sur une chaîne publique comme France 2, une émission consacrée à la forêt, à l'arbre, à la façon dont nous pouvons reconsidérer notre rapport au vivant, au végétal. Sur la question animale, il y a déjà pas mal de choses qui sont pensées, qui ont été faites. Et je pense que là, vous voyez, on est en train de travailler sur les imaginaires. C'est quoi un arbre ? Un arbre, ça peut communiquer, un arbre, ça peut... Voilà, c'est ça, c'est vrai. Sur les imaginaires et sur les représentations, c'est-à-dire ne plus considérer le végétal comme étant simplement une ressource à exploiter, ou un décor, ou un lieu de promenade pour un dimanche après-midi, mais comme étant un être vivant en tant que tel, singulier, avec une forme d'identité personnelle, ça, c'est vrai. Je ferme la parenthèse, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on travaille, finalement, rendre désirable ce qu'on a tendance, ce que les urbains, l'urbain que je suis, aurait tendance plutôt à migrer en disant bah, l'arbre c'est un décor, okay, il est là à côté, mais je n'y prête pas forcément attention. Et je pense que voilà, cet idéal de sobriété peut et doit passer effectivement par un travail d'éducation, un travail de représentation. Et je suis d'accord avec vous sur l'idée que la fiction elle a effectivement toute sa place et tout son rôle. Monsieur, oui.
Oui. Alors, c'est pas pour tuer le match, mais.
En fait, 20h27, on est dans les dernières minutes.
La question est, est-ce qu'on peut avoir un désir infini dans un monde fini ? C'est ouais. Cette sobriété. Bon, la réponse est clairement non. Mais en même temps.
Ça dépend ce que vous entendez par désir infini.
Bah, toujours plus, de toujours plus.
Quoi. D'accord.
Toujours plus. Et là, on en parle tranquillement entre nous. On a tous des logements chauffés. Quand on appuie sur le bouton, on a de la lumière. Quand on prend le robinet, on a de l'eau. On parle très doctement de sobriété, c'est pas la même chose pour tout le monde sur la planète, il faut pas l'oublier. Et par exemple, quand je parle de monde fini, les ressources minières, on va creuser, on va chercher des choses dans le sol, et il y a des gens très savants qui ont estimé que par rapport aux prévisions économiques qui étaient faites en 2018, d'ici 2050, il faudra extraire autant de métaux du sol qu'on en a extrait depuis. Le début de l'humanité en 35 ans. Voilà. Donc, c'est pour donner une idée de. On est dans un délire complet, on parle de sobriété, on n'est pas du tout dans des projections comme ça. Et entre parenthèses, sur ces ressources minières, il y en a à peu près 60% pour la voiture électrique. Hein, les écolos en Tesla, on discute.
fait. Et alors, sur le discours de la sobriété, qui est une autre façon de dire faites des efforts, qui est une autre façon de dire faites des sacrifices, donc on est toujours dans un discours, je reviens là-dessus, on est toujours dans un discours qui a été, qui est pas neuf, hein, du sang et des larmes, enfin, ça a été promis par plein de dirigeants politiques. On ira voir si l'Élysée est chauffée à 19 degrés, je ne suis pas sûr. Hein, je le recommande.
Ils auront plus de kilomètres.
Et donc, on est toujours dans une façon de s'adresser au peuple sous un mode de culpabilisation, de dire faites des efforts. Hein, c'est de votre faute, hein, quand même. Si vous n'êtes pas à 19 chez vous, si vous êtes à 20, c'est très mal. Donc, ou 21, quoi, ça ne va pas. Donc, faites des efforts. Et c'est ce que disait le monsieur, c'est que, en fait, l'infantilisation, elle est dans le discours. On a même un ministre, je crois que c'est le ministre de l'économie, qui a dit que les enjeux environnementaux n'étaient pas accessibles à une pensée moyenne.
Oui. Je n'avais pas de cette intervention. Oui. Monsieur, madame.
Excusez-moi,
je pensais que vous aviez terminé. Allez-y, oui.
C'est puisqu'on est dans un monde fini, on nous parle de sobriété, en fait, il y a deux grandes questions qui vont se poser. C'est d'abord la répartition, parce que puisque la quantité de choses désirables, je parle bien hein, d'objets, etc., de ressources désirables est finie, ben, qui les prend hein. Et on voit qu'on n'est pas du tout dans une tendance qui va vers l'égalité, on est plutôt sur l'accaparement par une petite minorité de gens qui n'ont aucune limite. Et puis l'autre question, c'est la démographie. C'est-à-dire, est-ce que l'espèce humaine peut continuer à proliférer comme elle le fait depuis, en gros, 500 ans? Ben, si vous regardez les chiffres de la démographie mondiale, c'est comme ça. Et dans les dernières années, on est dans un...
Ça va baisser dans 30 ans.
Voilà. Donc, c'est...
Très bien. Monsieur et madame, ouais.
On verra.
Oui,
ce que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'il faudrait qu'on soit considéré comme des adultes, c'est... Je suis d'accord, hein, faut devenir des adultes, mais on nous le laisse... Pour certaines personnes, on nous laisse même pas l'être, quoi. Genre, on nous dit... voilà, on nous dit d'aller voter, mais pour quelqu'un qui nous représente, parce qu'on serait... On nous considère qu'on est trop bête pour voter pour des... décision tout simplement, bah, voilà que chacun. Enfin, on est trop bête pour les décisions de la vie sociale. Et pareil, il y a des gens dès l'éducation, on les sépare, on leur dit c'est pas la peine, c'est pas pour vous, et on les. J'ai peut-être rentré dans un délire un peu marxiste, mais on les donne à une certaine classe, quoi, une classe sociale, quoi, la bourgeoisie. Et si justement on aidait les personnes laissées de côté un peu je me suis éparpillé, mais si on laissait les personnes laissées de côté et on leur donnait les moyens en les aidant à réfléchir, à devenir des adultes comme tout le monde, peut-être que ça se passerait mieux, quoi. Et on pourrait décider nous-mêmes sans avoir 10 000 règles. Et voilà, là, on serait considérés comme des adultes.
Oui, en cas d'autonomie.
On pourrait agir comme des adultes.
Oui, madame, oui.
Oui, bah, en fait, monsieur a rebondi par rapport à ce que l'autre monsieur disait.
Peut-être plus fort pour qu'on puisse vous entendre.
Ah oui. Le fait qu'on nous fasse culpabiliser l'image de la société à laquelle on se raccroche et tout ça. Et je pense qu'on peut vivre avec nos désirs et être assez simple dès lors qu'on choisit et non qu'on a l'impression de subir. Et le fait d'être culpabilisé par la politique ou autre, pour moi, ça me semble incroyable. Parce que pourtant, je fais partie de la société, j'aime la société en plus. Mais je ne me sens pas concernée quand il parle. En fait, je suis en capacité de choisir, de m'extraire de ce discours et de ne pas me sentir acculée et pas concernée et de faire mes propres choix.
Oui, je pense que, peut-être pour conclure, sauf si...
Je vous ai
oui, je vais faire...
C'est intéressant, mais bonjour pour
pouvoir, etc. Et que finalement, quelque part, les désirs de ces personnes-là, parce qu'ils se réalisent, impactent et quelque part nient nos propres désirs.
Oui, tout à fait.
Il
mm-hmm.
faut les éliminer, comme les enfants et les parents.
Décision radicale ce soir. Décision radicale. Ouais, il me semble que pour essayer de faire une petite synthèse de ce qui s'est dit par rapport à votre question, savoir donc si la sobriété et le désir sont compatibles ou non, savoir s'ils sont contradictoires. Peut-être qu'on pourrait en revenir à la notion de sacrifice. Vous avez évoqué, monsieur, qu'on a un peu laissé de côté. Moi, il me semble que le sacrifice introduit une dimension morale. J'ai à me sacrifier pour l'intérêt général, pour la patrie, pour ma famille, pour la planète, pour les générations futures. Et en ce sens, on est à mille lieues de l'idéal de sobriété. Puisque dans la notion de sacrifice, il y a l'idée de frustration, de privation, privation volontaire, certes, je fais le choix de me sacrifier pour, mais quand même, je prends sur moi et je suis dans le ressentiment, comme dirait Nietzsche. Voilà, je rumine, si j'avais si j'avais été sans ce poids-là, qu'aurais-je fait de ma vie, ça, c'est vrai. À l'inverse, dans la notion de sobriété, si on laisse, je suis d'accord avec vous, hein, sur l'aspect politique et communicationnel, si jamais ce terme existait, de la chose aujourd'hui, qui vise à nous faire accepter des sacrifices, des frustrations, des efforts, etc. Mais si on en revient peut-être à l'idéal de sobriété tel qu'un Kierkegaard l'a pensé, ou tel qu'un Épicure l'a pensé, ou tel que Spinoza, d'une certaine manière également, l'a pensé dans l'éthique, on est mieux dans le sacrifice. Il ne s'agit pas de se sacrifier, il s'agit de se réorienter. Il s'agit de bifurquer, comme on l'a dit tout à l'heure, de détourner le visage, d'ouvrir de nouveaux horizons pour s'accomplir. Et finalement, ce n'est pas une privation, ce n'est pas une frustration, c'est au contraire un gain. Je ne perds rien. Il y a une formule en architecture en anglais, je me permets cette. C'est less is more. Voilà, moins c'est mieux, moins c'est plus. D'accord ? Et finalement, j'épure ma vie, je la débarrasse des scories qui peuvent venir nous aveugler, nous perturber, nous faire vivre dans la jalousie, dans la comparaison. Vous parliez du paraître, de ces passions sociales qui nous contaminent, d'accord ? Et finalement, la sobriété, c'est accepter de faire moins avec mieux, c'est-à-dire d'être plutôt que de paraître, et c'est un choix de vie. C'est un choix de vie que l'on peut faire pour soi-même, que l'on peut faire à l'échelle, vous l'avez dit, peut-être d'une famille, d'accord ? Peut-être faire comprendre à son enfant ou à ses enfants que telle trajectoire sociale que d'autres épouseraient, que la majorité d'entre nous épouseraient, est-ce qu'elle te rendra forcément heureuse ou heureux ? Donc, que l'on peut faire pour soi-même ou à l'échelle de micro-sociétés, d'une famille ou d'un quartier ou d'une vallée dans les Pyrénées, comme vous l'évoquiez. Et finalement, ce choix de vie, peut-être, et je vais encore jouer au philosophe optimiste, mais je veux bien l'assumer, peut-être que par contagion, par contamination, par une heureuse contagion, par mimétisme social, comme on dirait en sociologie, finalement, il va se répandre et donner la nouvelle règle. Et il me semble, quand je disais tout à l'heure qu'on est à la croisée des chemins, on en est peut-être là. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes générations veulent toujours avoir un nouveau vêtement ? On voit quand même qu'il y a un marché de la seconde main, qu'il y a un marché de l'occasion qui se développe. On voit que l'envie de traverser l'Atlantique en avion pour aller 3 jours à New York, c'est pas forcément toujours ce à quoi on aspire. Mais finalement, essayer de se réformer soi-même pour réformer les autres et de réformer les autres pour réformer la société. Et je voudrais juste terminer par une petite référence philosophique ou plutôt littéraire. Je pense que vous connaissez tous le mythe de Sisyphe. Voilà. Et Sisyphe, c'est un demi-dieu qui défie Zeus, qui vit dans l'ubris, ce que les Grecs appellent l'ubris, c'est-à-dire dans la démesure, dans l'absence de limite, dans l'excès.
d'accord, l'humain n'a pas de limite, il peut tout, il doit tout espérer, car il peut tout réaliser. Je passe aux détails de la petite histoire. Il se retrouve, comme vous le savez, condamné par Zeus, d'accord, à toujours devoir pousser son rocher au sommet, et le soir il redescend, et le lendemain on peut en avoir une vision très négative, d'accord. C'est nous sommes condamnés à travailler, nous sommes condamnés à l'effort. Finalement, nous sommes condamnés à toujours devoir gagner notre pain sur notre front, pour reprendre une autre tradition biblique cette fois-ci. Et vous savez, vous connaissez peut-être la dernière phrase du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Camus termine de manière un peu énigmatique son texte en disant mais voilà la vie de Sisyphe, une vie de labeur, une vie d'effort. Mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Et finalement, à vous entendre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait rendre Sisyphe heureux? Mais peut-être que le bonheur de Sisyphe, il vient que il a compris, on lui a fait comprendre, que le rêve d'immortalité, que le rêve de démesure, que le rêve de conquête, le rêve de pouvoir, bref, que la démesure, que l'hubris était malheureuse pour lui, était malheureuse pour les autres. C'est pas qu'elle soit mal, c'est qu'elle est malheureuse. Et que son bonheur peut-être résider dans cette simple action qui consiste à pousser son caillou tous les jours jusqu'à sommeil et à recommencer le lendemain de la manière la plus modeste qui soit, de la manière la plus humble, de la manière la plus humaine qui soit, en rapport avec soi-même, en rapport avec son environnement, en rapport avec la nature. Et finalement, nous sommes les Sisyphes qui cherchons à ne pas être Sisyphes, qui cherchons à être Dieu, et peut-être qu'il faut accepter notre sort de Sisyphe et pousser notre caillou un peu plus chaque jour.
De façon sorte, c'est-à-dire un plus petit caillou.
Oui, parce que c'est vrai. Elle vous invite à être sobre dans le temps de convivialité. Voilà. Merci.
Ben, merci beaucoup.
J'en ai parlé avec
avec modération. Ouais, j'en avais parlé au début.